des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. De 8 à 10.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Bienvenue à Politiquement Incorrect. On parlait il y a quelques minutes des propos de Yves-François Blanchet au sujet du premier ministre Trudeau. Il l'a interpellé en Chambre des communes en disant « Est-ce que le premier ministre peut mettre son popotin ministériel dans l'avion ?» pour aller régler ce qui se passe en Colombie-Britannique. Et, écoutez, je peux vous dire que les Québécois, parfois, ben là, comme je disais tout à l'heure, je me demande même si la traduction de l'expression popotin, j'aurais aimé être à la Chambre des communes pour entendre la traduction en anglais de cet appel de M. Blanchet, un appel du cœur, et avec, quand même, avec un excellent choix de mots. Alors, je le félicite, et c'est pas, il n'y a pas que là-dessus que les Québécois se démarquent à Ottawa. Je peux vous dire que, après avoir passé 8 ans là-bas, On se fait souvent remarquer, les gens remarquent qui sont des Québécois quand ils circulent dans les rues, parce qu'en général, les Québécois, on est ce qu'ils appellent des jaywalkers. On traverse un peu n'importe où. Et c'est quelque chose qui m'interpelle ce matin, parce que la traversée des piétons est un sujet dont on parle beaucoup, la sécurité des piétons, à Montréal en particulier. Et ce matin, en quittant la maison, je quittais Longueuil, je me prêtais à prendre le pont Jacques-Cartier, un peu à la pénombre quand même, le soleil n'était pas encore levé. Et j'ai encore une fois fait face à une situation périlleuse, dans la mesure où, comme bien des chauffeurs, des conducteurs, je suis passé devant un passage à piétons. Et heureusement que c'est un sujet qui nous préoccupe tous, qui a été amené à la conscience de chacun, parce que même moi, j'ai fait comme « Oh, il y a un piéton qui va traverser ». J'en parle parce que je trouve profondément que les traversées de piétons sont un endroit qui m'apparaît. Je trouve qu'on joue à la roulette russe actuellement avec la sécurité, parce que dans tous les cas, un passage à piétons est un droit fondamental, un droit protégé des piétons de pouvoir traverser en ayant l'assurance que les voitures vont s'arrêter. Or, beaucoup d'études, de statistiques ont été démontrées, ont été faites que très peu de gens, ben, en fait, on ne devrait pas dire ça, il ne faut pas capoter, il ne faut pas, très peu de gens respectent les passages à piétons, mais quand même, c'est reconnu que c'est souvent pas respecté, puis que les gens ne le voient pas. Et moi, je dirais que c'est extrêmement dangereux dans la mesure où le piéton revendique, à juste titre, son droit de traverser et de pouvoir le faire en toute sécurité. Et malheureusement, bon, les chauffeurs ont tendance, particulièrement au Québec, à ne pas respecter, à ne pas apporter assez attention à ces traversées-là. Mais aujourd'hui, je trouve qu'un peu partout, il y a un grand manque d'homogénéité dans ces traversées-là. Je pense que la signalisation est déficiente et je trouve ça drôle de dire, moi, je pense que, je vous témoigne ici de mon expérience de conducteur. Tout le monde a son vécu là-dedans et j'ai aussi, comme tout le monde, une expérience de piéton. Mais ce qui est dangereux ici, c'est qu'il faut se rappeler que dans le monde de la circulation, dans le partage de la route pour la sécurité de tous, on a installé toutes sortes de signalisations. On a installé des stops, on a installé des feux rouges et à chaque intersection, en soi, on peut imaginer que n'importe qui, si par exemple les feux étaient en panne, ben les gens vont s'arrêter à une intersection en se disant « Oh, il y a un risque, il y a un danger », mais malgré ça, on installe des feux verts, des feux jaunes, des feux rouges, on indique clairement quand est-ce qu'on a le droit de passage ou pas. Ben le passage à piéton m'apparaît justement quelque chose où il y a un flou artistique extrêmement dangereux. Ce n'est pas homogène, absolument pas. Il y a par endroits des feux qui clignotent, qui disent « Attention aux piétons, passage piéton ». Il y a souvent aussi le petit marteau avec l'évocation de l'amende en dollars qu'il faudra payer pour, dans ce cas. Mais dans tous ces cas, il m'apparaît, un, que ce n'est pas uniforme au niveau de la signalisation. Deux, que ça devrait être beaucoup plus renforcé, beaucoup plus éclairé. D'ailleurs, le mot éclairé, je fais allusion tout à l'heure à des témoins lumineux qui nous indiquent parfois qu'il y a un passage à piétons, parfois il n'y en a pas. Alors, si on se met à se limiter aux signaux clairs qu'on nous envoie, ben on se dit, ben si on va garder un œil vif sur les feux qui clignotent pour un passage à piétons, et s'il n'y en a pas, ben ça se peut qu'on soit plus distrait. L'autre affaire aussi, ce matin, je parlais du fait que j'étais un peu à la pénombre. Mais ces endroits-là devraient être particulièrement éclairés. Moi, je peux vous dire, en tout cas, que j'ai dans mon circuit quotidien, on a tous un peu hein, notre petit chemin de lapin qui part de chez lui puis qui s'en va au travail. Mais sur le chemin de mon travail, sur le chemin de mes déplacements habituels, ben il y a plusieurs endroits où les passages à piétons sont dans des zones qui sont particulièrement peu éclairées. Je veux dire, ça m'apparaît très dangereux parce que ça crée une fausse impression de sécurité et Dieu sait que c'est certainement ça qui a de pire. On l'a bien vu à Montréal, cette année, ça a été une année record. On parle de 24 piétons qui ont été happés mortellement dans le Grand Montréal. Alors, c'est quelque chose qui m'apparaît, j'interpelle ici les gens de la sécurité routière pour voir, est-ce qu'on ne devrait pas chercher à homogénéiser la signalisation des passages à piétons? Alors, écoutez, on est à Politiquement Correct, on revient avec la chronique économique de M. Yves Daou tout de suite après la pause.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
Politiquement incorrect, on parle évidemment partout du blocus ferroviaire. Évidemment, ça a des impacts sur la vie de chacun. Et particulièrement, bien sûr, au-delà des problèmes que ça peut causer aux gens, aux navetteurs qui vont travailler et tout ça, on a un gros problème au niveau économique et on est en ligne avec notre chroniqueur économique Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Vous avez réagi au réflexe rapide de M. Pierre Fitzgibbon au soutien qu'il veut donner aux entreprises qui sont touchés par le blocus ferroviaire.
Oui, bonjour Pierre.
Bonjour.
Écoute, la semaine a été excessivement difficile pour les entreprises au Québec, particulièrement les PME. Là. Donc, ont été frappés sur deux fronts cette semaine. D'abord, il y a eu le coronavirus là, qui a un impact majeur sur les entreprises parce qu'on sait que beaucoup de PME au Québec se sont tournés beaucoup vers des fournisseurs chinois pour leur fournir leur matériel. Mmh. Et tout ce matériel-là, cette marchandise-là, se retrouve aujourd'hui encore bloqué au port de Vancouver avant d'être télédéchargé, mis sur des trains, mis sur des camions par la suite. Et donc, ça suppose que plusieurs qui n'ont pas gardé des inventaires importants attendent toujours la marchandise. Donc, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas vendre la marchandise et donc ils se retrouvent avec une situation financière difficile. Donc, hier, lors du dévoilement des investissements étrangers ici à Montréal par le ministre Fitzgibbon, il a quand même déclaré que le gouvernement serait probablement prêt à regarder un programme de type prêt 911 là, pour secourir les entreprises qui ont des problèmes de liquidité pendant la période de cette situation-là. Mmh. Et donc, je pense que c'est important de penser que les entreprises au Québec qui maintenant maintiennent des inventaires plus petits que par le passé font face à une situation de liquidité assez rapidement. Et si on rajoute à ça, par-dessus le coronavirus, évidemment, le blocus ferroviaire, et hier déjà, on sait qu'il y a plusieurs secteurs qui sont touchés, mais un des secteurs qui semble être inquiet, c'est les concessionnaires automobiles qui, mmh, déjà, on sait beaucoup d'automobiles qui viennent de l'Asie se retrouvent encore sur les trains. Et là, le printemps s'en vient, c'est la grosse période de vente et beaucoup des nouveaux modèles se retrouvent sur ces trains-là. Mm-hmm. Donc, déjà, là, l'Association des concessionnaires automobiles du Québec, son porte-parole, Robert Poitier, a quand même indiqué là, que des marques importantes comme Nissan, Mitsubishi, Honda là, ont dû composer avec ce problème-là rapidement. Là. Mm-hmm. Fait que c'est quand même une situation difficile pour les PME cette semaine.
Mais Yves, d'ailleurs, on sait déjà que s'il y a des gens qui sont intéressés par des véhicules qui sont moins énergivores, qui sont souvent aussi, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent maintenant aux voitures hybrides prolongées, électriques et tout ça. Il y avait déjà de longues files d'attente. Ça va être bien pire encore aujourd'hui.
Ouais, ben c'est sûr que le gros du marché, même si bon, on sait la voiture électrique est importante, le gros du marché reste encore les voitures traditionnelles là, et c'est là que le bas blesse là aujourd'hui pour les concessionnaires. Donc c'est une situation qui est assez dramatique, mais souhaitons là que le CN et le CP seront capables prochainement là, de rétablir la situation ferroviaire.
Yves, est-ce que c'est juste moi ou le fait de voir que le ministre Fitzgibbon va au-devant un peu du problème? Est-ce que c'est un gros changement pour les gens d'affaires au Québec de voir qu'on a un ministre qui est aussi rapide à saisir les enjeux? Il me semble que il prend beaucoup d'initiatives et c'est tant mieux, j'imagine, pour le milieu des affaires.
Ouais, ben en fait, évidemment, il s'attendait pas du tout à ce qu'on lui pose cette question-là hier, là, et donc sa déclaration qui disait « je ne suis pas trop préoccupé par le marché boursier, je suis plus préoccupé par ce qui se passe pour les PME », c'est quand même un réflexe qui est normal d'un ministre de l'économie. Là. Mm-hmm. C'est pas la première fois qu'on fait face à des situations d'urgence. Là. Il y a eu des programmes qui ont été mis en place lors d'événements où ce que justement les entreprises ont été affectées pendant plusieurs semaines. Là. Tu peux mettre même, tu sais, dans le fond, les entreprises, là, c'est comme une inondation. Là. Mm-hmm. Ils se retrouvent dans une situation où ce que là, ils sont pris avec une situation où ils doivent absolument avoir des revenus pour payer les employés, sinon ils vont faire des mises à pied. Donc, je pense que ça va être bienvenu des entreprises.
En tout cas, c'est un beau signal à envoyer aux entrepreneurs du Québec. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on pouvait lire dans le journal ce matin où le grand patron de Coveo, Louis Tétu, lui, considère qu'on est un petit peu trop à l'écoute des entrepreneurs qui arriveraient de l'étranger.
En fait, ça, c'est un débat là, qui dure depuis déjà plusieurs années. Là. Est-ce qu'on doit aider les entreprises étrangères à venir s'installer ici au Québec ou encourager notre Québec Inc. Ici? Et Louis Tétu est un PDG millionnaire qui a fait son argent au Québec avec ses entreprises ici. Et lui, ce qu'il reproche au gouvernement, puis il s'adresse pas juste au gouvernement du Québec, mais aussi au gouvernement canadien et d'autres, là, c'est que quand les entreprises étrangères viennent s'installer ici, d'abord, ils arrivent avec leurs gros sabots, puis la question, c'est qu'ils payent des salaires beaucoup plus élevés que les entreprises PME ou les plus petites paieraient ici. Donc, si une entreprise étrangère comme Google et toute autre compagnie étrangère arrive puis paie des salaires moyens de 75, 80, 85 000 $ mais les PME ne peuvent pas concurrencer là-dessus. Or, ce que M. Tadeo dit, dans le fond, là, c'est que quand une entreprise étrangère vient, elle siphonne un peu le talent. Mm-hmm. Et en plus de siphonner le talent, ben la question, c'est que ces connaissances-là qui est développée par ce personnel-là, la propriété intellectuelle va appartenir à cette entreprise-là. Et qu'une journée, cette entreprise étrangère qui décide, dans son centre de décision en Californie ou ailleurs, de quitter le Québec, ben elle part avec ces connaissances-là qui ont été développées par des travailleurs québécois. Mm-hmm. Alors, lui, il dit, faisons attention, assurons-nous d'abord peut-être d'encourager nos talents ici, nos entreprises ici, et soyons plus bons négociateurs avec les entreprises étrangères pour avoir des garanties sur la propriété intellectuelle, sur la vraie création d'emplois.
C'est un angle intéressant, la propriété intellectuelle. Je me souviens qu'il n'est pas le premier. Je me souviens que M. Boyko, aussi, là, de Stingray Music, se plaignait un peu de ce soutien à ses voisins physiquement parce qu'il est installé dans le quartier du multimédia. Et il disait lui aussi un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est bien beau de soutenir les étrangers, mais qu'effectivement, ça crée une pression à la hausse, surtout sur la main-d'œuvre qui est de moins en moins disponible.
Exactement. Donc, en plus de payer des salaires plus élevés pour des talents qui sont de plus en plus difficiles à trouver, imagine-toi pour les entreprises québécoises qui doivent rechercher ces gens-là. Et donc il lançait comme une espèce de signal au gouvernement en disant soyons prudents, regardons dans le rétroviseur pour être sûr que on perd pas ce qui est essentiel à l'économie du Québec.
C'est ça. Faut regarder devant, mais il faut pas lâcher le rétroviseur non plus. Puis charité bien ordonnée commence par soi-même. Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, merci beaucoup. On revient après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Selon un expert de l'OMS, le coronavirus poursuit ses ravages dans le monde. Je le cite ici, on n'est pas prêt à y faire face. On a la chance de s'entretenir avec microbiologiste, M. Mark Hamilton. J'ai plein de questions pour vous. Bonjour, M. Hamilton.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va bien, mais évidemment, comme tout le monde, on commence à avoir un sentiment d'inquiétude. Il ne faut pas, surtout pas semer la panique, on s'entend là-dessus. Mais est-ce que il y a matière ici là, à reconsidérer certaines mesures qui ont été prises au Québec? Je pense entre autres à votre collègue Carl Weiss de l'Hôpital juif de Montréal, qui semblait questionner un peu certains choix qui avaient été faits relativement à la fameuse passagère du vol Istanbul-Montréal. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aurait matière à hausser le niveau de prudence?
Ben, écoutez, c'est évident, là, quand on parle de pandémie, c'est une étape supérieure à l'épidémie. Donc, ça veut dire que le virus s'étend beaucoup plus largement que d'un seul continent. Il est rendu, autrement dit, il patauge à notre continent. Il est déjà rendu en Italie, il est en Iran, donc il fait une propagation. Et oui, autrement dit, on disait toujours on est loin du problème. Ah, c'est en Chine, c'est loin de nous. Mm-hmm. On n'a pas encore de problème ici. Les cas sont tous avérés négatifs. Mais moi, je pense que faut pas prendre ça pour, entre guillemets, du cash. Faut commencer à y penser, de dire, ben oui, mais attends un peu. Là. J'écoutais hier là, un passage là, du CDC américain. Là, il disait, c'est pas à savoir si, c'est plus savoir quand que le virus va arriver chez nous. Et tout tourne autour de qu'est-ce qu'il va falloir faire comme disposition pour éviter que la propagation s'installe chez nous.
Mm-hmm. On voyait des images aux nouvelles hier des différents pays qui sont touchés par ça. C'est quelque chose qui me turlupine. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, quand on voit les employés de la santé publique de ces différents États asperger les trottoirs, les lieux publics, qu'est-ce qu'ils appliquent comme type de produit? Dans quel but font-ils ça?
Ben, le but, c'est sûr qu'il y a des gens là-bas qui vont, en pensant que mettant des produits dans l'air ou aspergeant tous des produits de contact, c'est le produit qu'ils prennent, c'est une base qui est d'amine quaternaire. Autrement dit, c'est comme une espèce de lysol que les gens utilisent à la maison pour désinfecter l'air, les surfaces. C'est un produit qui est virucide, qu'on peut avoir un peu partout, là. Donc, c'est efficace contre toute forme de virus, entre autres des virus d'influenza, bon, les virus connus. Mm-hmm. Et ils appliquent ça comme aux endroits où est-ce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de monde pour désinfecter les trottoirs, désinfecter les surfaces de contact. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ratissent plus large à cause d'effet de masse. Mm-hmm. Mais, c'est des produits comme ça qu'ils mettent un peu partout dans l'air, là, pour un peu prévenir, la propagation du virus s'il reste trop longtemps sur une surface de contact, par exemple.
Est-ce que ces produits-là, je veux dire, est-ce que ça a des effets secondaires? Est-ce que potentiellement ça peut comporter d'autres risques pour la santé?
Mais il faut penser que le produit qui est désinfectant est à très, très faible quantité. On pense là à des ppm. Donc, c'est sûr que c'est pas des produits qui sont très concentrés. Ils sont déjà très puissants à faible dose. Donc, c'est évident que pour l'instant, nous, on l'utilise comme produit de consommation quotidien à la maison. C'est évident que si on le respire à tous les jours, à certains moments donnés, il y a certainement des fiches signalétiques du produit qui peut arriver à certains effets secondaires, mais utilisé d'une manière modérée, intelligente.
Et occasionnelle, exceptionnelle comme celle-là.
Parce que du moins, ça semble être efficace et sans danger collatéraux pour l'être humain.
Parce que moi, je regardais les images, je crois que les images que j'ai vues émanaient d'Italie, mais on en a vu beaucoup en Asie, les gens qui aspergeaient les trottoirs dans tout près des étals des marchés. Bon, c'est là qu'a commencé l'infection probablement, mais c'est quand même, c'est drôle, là, nous autres, on lave nos poivrons rouges bio au robinet, mais il me semble en tout cas, que ça y allait généreusement. Est-ce qu'on n'a pas à craindre des effets secondaires de ces traitements-là en plus?
Ben, c'est une excellente question, parce que c'est évident qu'il faudrait avoir la fiche génétique exactement du produit qu'on a, à savoir s'il y a un grade alimentaire. Parce que le même genre de produit que je parle depuis tantôt, il y a différents grades. Il y a des grades commerciaux, des grades plus résidentiels, puis il y a des grades aussi pour désinfecter l'industrie alimentaire. Parce que ce produit-là est à large spectre, peut détruire autant les bactéries, les virus, et est aussi utilisé dans un environnement alimentaire pour désinfecter, entre autres, les surfaces de contact, les surfaces de cuisson. Donc, il faudrait juste voir le dosage qu'ils utilisent et quel grade aussi, à savoir pour pas qu'il y ait de contamination de produits chimiques indésirables dans des aliments, par exemple. Mais effectivement, il faudrait en savoir un petit peu plus pour quel est l'ingrédient actif du produit qu'ils utilisent.
Oui, parce que les images que j'ai vues, c'est évidemment, c'est un marché public qui était certainement destiné à une clientèle locale, mais allons savoir si potentiellement ces produits-là sont appliqués aussi vers les produits d'exportation. Alors, plus que jamais, c'était d'ailleurs l'autre angle, l'autre question que je voulais vous poser. J'imagine donc que je peux déjà annoncer qu'une précaution à prendre, ça serait probablement de laver mieux que jamais les légumes, les fruits qu'on achète à l'épicerie, spécialement si elles arrivent d'endroits qui sont sujets ou qui sont maintenant à risque. Y a-t-il d'autres précautions dans la vie de tous les jours que les gens peuvent prendre par rapport à cette situation-là qui, tranquillement, commence à semer une certaine inquiétude? On en parle beaucoup aux nouvelles. Inévitablement, il y a un impact.
Bien, c'est évident que tous les produits qui viennent de d'autres pays, donc on ne connaît pas le côté sanitaire des fruits et légumes. S'il est fortement recommandé de les passer à l'eau minimalement ou de les laver avec un savon doux avant de les consommer. Et ça, c'est pas d'hier. Là. Même avant le coronavirus, il faut les laver. C'est une routine qui doit être faite quotidiennement lorsqu'on les reçoit. Et aussi, ça préserve le légume plus longtemps aussi, lorsqu'il est exempt de pathogènes, si on veut. Mais c'est évident que moi, une des craintes que quand on parle d'une possible épidémie qui s'en vient au Canada, les gens me posaient comme question. Ils disent, est-on préparé à avoir une épidémie? Et je regardais tout l'historique du Québec. La dernière grande épidémie qu'on a eue, c'est pas d'hier, là. Ça date là de l'agro-oscille, puis des années 1900, lorsqu'on faisait mettre les gens en quarantaine qui arrivaient d'autres pays, et on y allait avec les moyens du bord, puis on mettait les gens 40 jours sur une île en attendant qu'ils aient pas de symptômes. Et les épidémies qu'on a connues, mais la dernière épidémie, heureusement, ça n'a pas été une, mais rappelez-vous, le H1N1 en 2009.
Ben oui.
Que les gens disaient, écoutez, allez chercher des masques. Il y a eu une polémique terrible, très médiatisée. Et qu'est-ce qui avait contré ce virus-là, du moins la propagation, c'est que tout le monde avait des vaccinations massives. Le monde allait se faire vacciner. Il y avait du Tamiflu, qui est un antiviraux, qui était utilisé à large spectre. Donc, le fait d'avoir vacciné, je ne sais pas combien de pourcentage des populations au Québec et dans
ça
le monde...
Ça a freiné la potentielle croissance, là.
Et ça a donné aussi une assurance des gens de dire ben moi je suis vacciné, je suis bien contre le virus. Donc ça c'est ben aujourd'hui on peut pas parler de ça parce que le coronavirus comme on le connaît, il n'y a pas de barrière médicale pour le contrer à court terme.
C'est ça. Bon, on croise les doigts des travaux du docteur Michel à Montréal qui sont potentiellement une solution à venir. On va leur souhaiter bonne chance, on en a tous besoin. En terminant, je vais juste vous demander, quel est votre... est-ce qu'il serait possible de faire plus que ce que nous avons fait pour cette fameuse passagère Istanbul-Montréal et pour laquelle la santé publique a choisi d'aller chercher les passagers des trois rangées en avant, les trois rangées en arrière de cette passagère-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, il n'y aurait pas matière à contacter les passagers qui étaient dans cet avion-là au complet?
Ben oui, mais je dirais la seule équation qui fait en sorte que ce que vous venez de dire, c'est beaucoup plus large que ça, c'est qu'on l'a su comme 10 jours après. La personne a transigé le 14 février, on l'a su comme le 23-24, la personne était atteinte. Et dans ces 10 jours-là, là, ça va beaucoup plus large que juste l'avion. C'est qui elle a côtoyé, sa famille, ses milieux de travail. Donc, ça devient exponentiel l'enquête qu'il faut faire. Et le seul point positif que je vois à ça, entre guillemets, c'est que ça fait plus de 10 jours. Là, maintenant, c'est 12-13 jours que ça s'est passé. Et on dit, les gens ont quasiment fini la quarantaine du temps qu'elle était, qu'elle était porteuse. Donc, il y a certaines gens qui ont subi une quarantaine qui entouraient cette personne-là. Donc, si les gens ne se sont pas déclarés, ben ces gens-là sont en fin de quarantaine. Donc, c'est le seul point positif que je peux dire. Mais quand on dit de rappeler les gens qui étaient dans l'avion, c'est une chose, mais c'est beaucoup plus large que ça. Cette personne-là, faut regarder son quotidien, qui qu'elle a été voir, avec qui qu'elle travaille,
bien sûr,
qui qu'elle a touché. C'est ce côté-là qui fait qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus large que juste l'avion. Et oui, si on revient à la base, il faudrait mettre au courant les gens qui ont pris l'avion en même temps qu'elle pour voir s'ils ont des symptômes, ce serait à faire, mais c'est beaucoup plus large.
Absolument, parce qu'il y a quand même de sagesse commune de dire que dans un avion, l'air est recirculé, puis que c'est quand même normalement, il y a beaucoup de gens là, qui sont conscients que dans un avion, on peut facilement attraper quelque chose, un rhume ou une grippe ou quoi que ce soit, parce qu'on est tous, pendant toutes ces heures-là, à partager le même air. Bien, monsieur Mark Hamilton, merci beaucoup d'avoir contribué à la meilleure connaissance de la situation. Merci beaucoup, vous écoutez Politiquement Incorrect.
Politiquement Incorrect.
Cube Radio, autrement dit.
Ça brasse pas mal à Ottawa et s'il y a quelqu'un qui peut nous en parler, ben c'est certainement Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien toi?
Et comment ça se passe à Ottawa?
Ben c'est comme je pense qu'on est rentré comme dans une nouvelle phase là de ce conflit et de cette crise là, ferroviaire où le gouvernement ne sait plus comment s'extirper là de ce cercle vicieux là dans lequel sa stratégie l'a plongé. Je m'explique, on est parti avec l'idée de négocier pour dénouer l'impasse au cœur de où est la crise, qui est chez les Wet'suwet'en. Mais face à l'impatience de la population, l'impatience des premiers ministres provinciaux, mais là, M. Trudeau a dit, ben moi, je vais continuer à négocier. C'est moi qui ai le pouvoir de négocier. Tu sais, on va se faire un partage des compétences, hein. Moi, je vais négocier. vous faites respecter les injonctions. Puis, mais on voit ce que ça donne. Finalement, qu'est-ce que ça donne? C'est que tu démantèles une barricade. Il y en a deux, trois, quatre qui sont érigés ailleurs. Mmh. Alors là, est-ce qu'on est dans un cercle vicieux où la police intervient quelque part, il y a d'autres barricades ailleurs et où finalement, on n'est pas à une once près d'une résolution? Pire que ça, moi, je pense qu'on est de plus en plus témoin d'une mobilisation qui s'élargit là au niveau des Premières Nations.
De façon très organique, un peu imprévisible. Mais Emmanuel, je l'ai dit souvent, s'il y a quelque chose que j'ai réalisé en étant à Ottawa, c'est à quel point la relation avec les Premières Nations doit être un mandat qu'on doit se donner en tant que citoyen de se réconcilier, de trouver de meilleures ententes, de respecter les traités et tout ça. Et je veux bien croire, mais au moment où on se parle, pour moi, la grande question, c'est où est le leadership des Wet'suwet'en? Parce que si j'ai bien compris, la plupart des barricades qui s'installent aujourd'hui sont en solidarité avec les Wet'suwet'en.
Oui, mais le problème, c'est que et je pense que c'est ce qui rend... Il y a une partie de cette crise qui est un peu... qui est kafkaïenne, là, où, parce que c'est une communauté qui est divisée. Il y a les chefs élus, il y a les chefs héréditaires, il y a de l'intimidation de part et d'autre. Et objectivement, je pense que nous, on voit ça ici comme quelque chose de déraisonnable, là, mais quand on parle à des représentants des Premières Nations, des gens qui sont dans cette logique et qui baignent dans ce dilemme identitaire et de gouvernance depuis longtemps, ils disent, écoutez, c'est un peu injuste de demander à cette nation-là de régler ses problèmes
de gouvernance interne
sous la pression d'une crise nationale quand les signes de cette crise-là à l'interne chez les Wet'suwet'en, elle dure depuis 2014. Et donc, le problème, c'est que là, tout éclate au gros jour, mais l'abcès en dessous, là, ça fait longtemps qu'il fermente, là, et qu'il grandit et qu'il s'étend et qu'il divise la communauté. Et là, ben, il faut... L'idée, initialement, je pense que c'était de créer un espace pour que eux puissent s'entendre entre eux. Mais avec toutes les pressions externes qui viennent, ben là, ça devient un peu impossible parce que tout le monde est comme entêté, là. Puis, je le répète, tu sais, une partie de cette réconciliation-là dont on parle au Canada, je pense que c'est de comprendre à quel point les tribunaux au Canada, la Cour suprême a reconnu
ben
la
oui.
légitimité des droits et le droit des Autochtones de faire respecter leurs droits sur les terres ancestrales et l'obligation des autorités au Canada de tenir compte des lois autochtones.
Ben oui.
De leurs lois traditionnelles, ancestrales et de leur mode de gouvernance ancestrale. Alors, te rends compte qu'on essaie de régler un problème en étant à cheval sur deux régimes légaux.
Mm-hmm.
Ce problème-là, objectivement, le gouvernement, il sait depuis longtemps qu'il
ben
existe.
Oui.
Et il existe un peu partout. Et là, ben il faut essayer de régler ça comme tout d'un coup, alors que le gouvernement s'en est jamais occupé avant. Là.
Exactement.
C'est
non,
ça le problème dans lequel on est. Là.
Ce qui m'apparaît d'ailleurs assez inexplicable, parce que je pense que tu la connais bien mieux que moi, Mme Bennett est vraiment dédiée à cette cause depuis toujours. Mark Miller, qui a appris à parler le Mohawk, est un intervenant, je pense, de bonne foi, mais au moment où on se parle, on est obligé... compte tenu de la situation périclite, on est obligé de le voir un peu comme une contamination puis dire, mais où est le patient zéro? Où est le problème zéro? Puis je pense que tu as mis le doigt dessus. Je veux dire, c'est pas d'hier que on sait qu'il y a des niveaux de gouvernance nuancés et que les promoteurs du Coastal GasLink auraient-ils délibérément chercher soutien d'un côté en se disant que ça va passer de l'autre, mais ultimement, il faut ramener ça à une cause la plus précise possible, parce que sinon, on n'est pas sorti du bois. Il faut ramener les Wet'suwet'en à la surface pour en faire un intervenant qui va pouvoir négocier. Sinon, il va falloir nommer quelqu'un, nommer une personne pour venir faire le ménage.
Moi, je pense qu'à un moment donné, moi, je vais t'avouer, puis nous, on n'est pas... on essaie de comprendre ça, mais je pense qu'il faut le reconnaître avec humilité. Là, c'est pas notre monde.
C'est ça.
Puis je parle pas en termes d'être humain, là, je parle en termes de référents juridiques, culturels, etc. Mais moi, je me fie à l'opinion de Murray Sinclair, qui est sénateur mm-hmm. aujourd'hui, mais qui était quand même le président de la comité, la commission Vérité et Réconciliation, qui lui
ben
a
oui.
beaucoup critiqué la façon dont ces ententes-là sont négociées entre des promoteurs comme Coastal GasLink
ah oui.
et les conseils de bande, où il y a un peu une théorie de diviser pour conquérir. Là.
Ben oui.
Et où, finalement, tu peux pas vraiment dire que le consentement des conseils de bande est complètement éclairé. C'est des gens, ils sont pauvres, ils ont pas d'opportunités, puis ils savent que ces projets-là vont finir par se construire. Donc, ils signent. Alors, c'est tout ça là, qui anime la crise en ce moment et qui fait que, malgré les problèmes surréels de gouvernance chez les Wet'suwet'en, ben, il y a les Mohawks et d'autres Premières Nations demeurent solidaires. Moi, je comprends pas pourquoi, depuis lundi dernier, le premier ministre n'a pas nommé un médiateur?
Voilà, ça serait une bonne idée.
Parce que à un moment donné, il y a un bris de confiance très clair entre les Premières Nations et le gouvernement. Puis je me permets de dire les Premières Nations, parce que tu as mm-hmm. vu même en début de semaine, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, qui est quand même très modéré, là,
bien
on
sûr.
S'entend,
ben oui.
A dénoncé les interventions policières. Là.
Mm-hmm.
Alors, le gouvernement doit trouver un interlocuteur qui peut faire le pont entre les deux. Est-ce que, j'ai pas eu de réponse, est-ce que le fait qu'on n'a pas nommé de médiateur, c'est parce qu'on n'a pas été capable de parler au Wet'suwet'en et donc on peut pas s'entendre sur qui nommer?
Mm-hmm.
Peut-être, mais moi je pense qu'il n'aura pas le choix à terme
oui.
que de trouver... Et le problème de M. Trudeau aussi, c'est que il est comme, il gère... Il est dans une micro-gestion de cette crise-là, mm-hmm. à la pièce.
Mm-hmm.
Et je pense que le seul signal qui peut vraiment permettre une désescalade, c'est un signal beaucoup plus large. Là,
oui. Ben, t'as nommé,
le fait de s'attaquer au problème des droits autochtones. Là.
Ben absolument. Puis je pense que t'as nommé avec beaucoup de justesse Murray Sinclair, qui est un joueur important. Est-ce que, par exemple, dans l'esprit de la Grande Commission sur la réconciliation, est-ce qu'il n'y a pas des figures marquantes? Ben, Murray Sinclair en est une. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient arriver et dire « Wow, là, on s'est parlé pendant des années de comment on pouvait redéfinir notre relation et là, on a un problème et qui en est, finalement, c'est comme un dérivé des problèmes de base que nous vivons maintenant. Est-ce que Murray Sinclair serait partant pour agir, tu penses, comme médiateur? Ou je pense à quelqu'un, mon ancien collègue, Roméo Saganache, qui était un des artisans de la paix des braves à l'époque. Y a-t-il des candidats du côté des potentiels médiateurs qui pourraient être suggérés fortement au bureau du premier ministre?
Oui, je pense qu'il y en a très certainement. Là, je veux dire, il y a toute une génération de grands leaders, de juristes, etc. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une méfiance du gouvernement de nommer quelqu'un qui va leur coûter trop cher politiquement. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Mm-hmm. Puis le gouvernement, je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, c'est Jody Wilson-Raybould. C'est son nom qui circule le plus.
Ah oui.
Pour dire ben peut-être que c'est elle que le gouvernement devrait nommer comme médiatrice. Elle était ancienne chef des Premières Nations en Colombie-Britannique. Son père est un chef héréditaire. Elle a le pedigree qui vient avec.
Je savais pas tout ça.
Elle sera pas vue comme étant instrumentalisée par le gouvernement Trudeau. Écoute, moi je trouve ça surréel. Là. Tu peux pas quand tu nommes un médiateur, faut que tu puisses avoir confiance en lui là.
Exact.
Je pense qu'on s'entend que le lien de confiance est brisé entre Jody Wilson-Raybould et le gouvernement. Mais elle, en tout cas, dit ouvertement dans les médias canadiens anglais qu'elle trouve qu'elle devrait être invitée par le gouvernement Trudeau à venir les aider parce que elle saurait comment dénouer cette crise-là.
Mais
alors, toi, il y a même des égos dans cette affaire-là.
Ben oui, voilà. Honnêtement, ça, c'est un peu décourageant parce que je trouve que par le fait même, en se proposant d'elle-même avec tout le background de son départ de l'équipe libérale, c'est d'avance donner des points, des arguments au premier ministre Trudeau. C'est pas des arguments qu'il pourrait dire publiquement, mais c'est certainement, ça motiverait sa crainte, effectivement, de se faire damer le pion et voler toute la lumière de la résolution. Et là, il y en a pas de lumière actuellement là, de résolution et il faut trouver une solution. Au niveau de la médiation, est-ce que tous les intervenants de la commission, il y a tellement de gens qui ont exprimé qu'il fallait repartir notre relation avec les Premières Nations. Aujourd'hui, c'est dramatique. On érode le beau consensus qu'on a vécu dans les deux dernières années.
Oui, mais on ira d'un consensus qui était fragile. C'est facile pour le monde à Montréal là, de dire « Ah oui, il faut se réconcilier avec les Premières Nations. Il faudrait qu'on soit moins raciste. C'est effrayant ce qui leur est arrivé. » Bon, mais ça coûte rien de faire ça. Là.
Mm-hmm.
Ce qui coûte quelque chose, c'est de s'asseoir, c'est de négocier une forme de souveraineté pour eux sur leur terre. Puis quand je parle de souveraineté, je parle pas qu'ils mettent des frontières puis qu'ils se construisent un pays autour de leur terre territoriale, mais c'est faire un cadre qui force dorénavant une cohabitation formelle, légale, en termes de gouvernance, en termes de développement. Ce qu'il faut, c'est signer des paix des braves avec les nations au Canada, mais tu peux pas signer une paix des braves avec les Premières Nations.
C'est
la réalité, puis mon collègue John Iveson dans le National Post a sorti les chiffres, ça illustre l'ampleur du problème. Au Canada, il y a 80 nations, OK? Et 630 réserves.
Hey boy.
Alors, il faut que tu sois capable de regrouper les réserves sous chaque nation. Que ces réserves-là, qui ont chacune leur pouvoir et leur structure et leur joute interne,
ben ouais,
s'entendent avec un leadership de leur nation, s'entendent sur des revendications communes et qu'on négocie nation par nation en tenant compte des réserves qui, eux, ont des chefs élus. Tu vois-tu la complexité de l'affaire?
Absolument.
Ah, je pense qu'à terme, c'est ça qui fait que le gouvernement n'a jamais osé vraiment s'embarquer là-dedans. Moi, il y en a probablement une autre, mais le dernier grand traité qui a été signé dans le reste du pays, à part la paix des braves, c'est le traité des Nisga en Colombie-Britannique. Puis ça avait coûté très, très cher politiquement au gouvernement chrétien à l'époque que de le signer. Là, il n'y en a plus eu d'autres si grandes ententes que ça depuis. Mais ça, c'était une entente justement où on avait réconcilié dans le cadre légal un rôle pour les représentants élus et un rôle pour les représentants héréditaires qui forment, d'après ce qu'on m'explique, un genre de Sénat, etc. Mais donc, c'est cet exercice-là qu'il faut faire avec chacune des nations.
C'est ça.
Et ça, c'est un chantier d'une génération.
Ben oui. Mais d'ailleurs, j'aurais tellement voulu qu'on puisse avoir le temps de se parler de Jason Kenney. Mais en terminant, je vais te demander, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des forces qui pèsent dans cette division-là, dans le clan Wet'suwet'en? Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé ce flou pour dans leurs propres intérêts? Je pense, entre autres, par exemple, aux gens de Coastal GasLink.
Ben, je pense que, j'ai pas été témoin des négociations, puis c'est très litigieux, mais c'est très clair quand on parle aux leaders autochtones que eux te disent que les promoteurs, comme Coastal GasLink, comme Trans Mountain, comme tous les autres, ont développe des stratégies pour gagner l'appui des plus faibles, entre guillemets, pour mettre de la pression sur les autres, etc. Et il n'y a pas de mécanisme qui permet à une nation dans son ensemble de s'entendre et d'avoir une position commune. Et je pense que c'est ce mécanisme-là qui manque et qui fait qu'on a des affrontements. Et c'est cette crainte. Et c'est ça qui fait dire à plusieurs que ça, c'est une répétition générale pour ce qui va arriver avec Trans Mountain. Trans Mountain a signé avec 43 nations. Le projet traverse 129 communautés, mais il y a 4 communautés qui sont devant les tribunaux en ce moment. Donc, est-ce que ces gens-là, à la longue, vont finir par prendre ce genre de mesures musclées, de blocus, de barricades, etc., comme on a vu? Je pense que la question est absolument légitime, là. Et donc, c'est ça qui fait que moi, je vois pas une solution simple et à court terme au problème qu'on est en train de vivre en ce moment parce que les enjeux sont devenus trop grands.
Emmanuel, merci beaucoup. C'est le fun de voir à quel point tu connais le dossier puis tu peux nous permettre de voir le dossier dans son ensemble au-delà du fait que le monde Saint-Constant peut pas prendre le train à matin.
Non, c'est ça. Et qu'il n'y a aucun mécanisme pour faire respecter les injonctions objectivement sur le territoire des Mohawks à Kanisataki. Voilà où on en est en 2020. T'sais.
Merci beaucoup, Emmanuel, à travers notre analyse politique. Merci, bonne journée. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
Il y a le bon vieux poison, mais là, faut la dose. Pas assez, tu dors, un peu trop, tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaires. Mais à tout instant, gare au courant d'air.
Attention à la dernière phrase.
Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent.
Empêcher un homme de travailler, c'est la meilleure façon de le tuer. Alors ça, c'est un grand, grand, grand classique de Félix Leclerc. Je pense que tous ceux qui ont connu et qui ont découvert la beauté de l'œuvre de notre poète considéreront ce texte-là, cette chanson-là, comme un de ces coups d'armes exceptionnels. C'est un très mauvais terme que j'ai choisi, mais c'est certainement un de ces grands classiques et qui en dit long sur une réalité qu'on a beaucoup connue au Canada et au Québec en particulier, évidemment. Et là, ce matin, tout le monde parle de ça parce qu'évidemment, tout le monde est offusqué de voir qu'un texte de Félix Leclerc a été rejeté dans une école primaire. Et pour en discuter ce matin, on a Mathieu Boccoté, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et avec moi à l'ajoute. D'ailleurs, bonjour Mathieu Boccoté.
Bonjour.
J'imagine ta réaction épidermique quand tu as lu ça.
Oui, mais en fait, c'est que j'étais effaré par la bêtise infinie relayée par cette nouvelle. C'est-à-dire, en gros, non, on est dans une espèce de société un peu étrange où la susceptibilité des uns et des autres peut entraîner la censure d'un texte. On est dans une société plus encore étrange où des parents qui, normalement, ont un rôle immense dans l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire à la maison, ailleurs, partout dans la vie, veulent se substituer même au professeur en lui disant quoi faire, de quelle manière, quel texte enseigner, quel texte mettre de l'avant. Et à travers tout ça, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est l'inculture qui se manifeste à travers ça. C'est-à-dire, devant l'œuvre de Félix Leclerc, là, on décide à partir des valeurs d'aujourd'hui, des valeurs de quelques-uns, on dit, oh, eh bien, il faut empêcher l'enseignement de cette chanson. Et il y a la lâcheté des autorités, la lâcheté qui disent, OK, on se couche pour éviter la controverse, on déchire la page, on la jette et on s'en délivre. Il y a tous les condensés de la bêtise de l'époque se retrouvent dans cette nouvelle plus importante qu'il n'y paraît.
Et là, est-ce qu'il n'y a pas eu comme un carburant de l'huile jetée sur le feu par le fait qu'on est au moment où le gouvernement à l'Assemblée nationale a choisi de donner justement plus de pouvoir aux parents, moins aux commissions scolaires. Les parents se sentent ragaillardis, en particulier ici.
Ouais, alors ça, c'est une drôle d'histoire, hein, parce que les parents soient engagés dans l'éducation de leurs enfants, il n'y a rien de plus fondamental et de plus beau. Qu'ils veuillent s'engager à la rigueur dans l'école, dans les comités de parents et tout ça, on peut comprendre, c'est des parents accompagnateurs et tout ça. Qu'ils veulent se substituer à l'enseignant ou au professeur, là, ça devient inacceptable, fondamentalement inacceptable, parce que la transmission de la culture présuppose une autorité fondée sur un savoir qu'on acquiert en devenant enseignant, en devenant professeur. Et là, si on se donne le droit d'entrer, sauf dans des cas absolument scandaleux, scandaleux. Là. On peut très bien imaginer un cas.
Bien sûr. Mais
laissons de côté ce cas scandaleux. Félix Leclerc et son œuvre ne relèvent pas des cas scandaleux. Eh bien, ça, c'est comme une illustration de l'excès de pouvoir qu'on veut potentiellement confier aux parents, effectivement. Mais je le redis surtout du caractère mollasson des autorités, de la direction, qui dit, oh là là, pour éviter la controverse, débarrassons-nous de ça. Mmh. Et ça, je crois que c'est un élément qui est central là-dedans. Si on avait des gens qui décidaient de temps en temps de se louer une colonne vertébrale plutôt que d'avoir une peur terrible à l'idée de froisser quelqu'un, je pense qu'on aurait une société un peu plus structurée.
Mais heureusement, quand même, ici, faut mettre les choses en perspective. On parle vraiment d'une décision prise donc par le professeur et la directrice de l'école Saint-Enfant-Jésus qui a émis un courriel où elle s'exprimait ainsi. Elle disait « Le texte soumis au départ a été jugé trop aride pour des élèves de ce niveau », a fait valoir le porte-parole Alain Perron. C'est pourquoi l'enseignante a préféré donner un autre texte. Tout de même, en contexte, on peut reconnaître quand même que c'était pour des enfants de 3e et 4e année. Cette situation-là se présenterait au secondaire. Je pense que là, ça serait encore beaucoup plus catastrophique. Et...
Oui. Alors, il y a deux éléments là-dedans. C'est-à-dire que la notion d'aridité du texte, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Parce qu'à ce compte-là, est-ce qu'on va dire qu'il ne faut pas enseigner Jack Monoloy de Gilles Vigneault parce qu'il y a une dimension de racisme dans la chanson? Est-ce qu'on dira, oh, mais il ne faut pas enseigner Brassens ou Brel non plus parce que l'un dit les bourgeois c'est comme les cochons, l'autre dirait quand on est con. Hein, et il y a quelque chose à travers tout ça qui relève, je dirais, non seulement de l'infantilisation des enfants, ça irait, mais c'est l'infantilisation de l'intelligence. C'est-à-dire, on a une œuvre, l'œuvre exige qu'on travaille dessus. Félix Leclerc est une bonne manière de s'introduire à la culture québécoise, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il porte
les antiques valeurs de la paysannerie québécoise, oui. Il porte les antiques valeurs d'un monde ancien qui nous heurte et qui nous parle tout à la fois. Eh bien, si devant ça, notre réaction, c'est l'effroi, la peur, et on jette tout simplement, je trouve que c'est plus qu'un fait divers, c'est un fait divers très parlant, c'est un fait divers symptomatique de cette logique plus large de censure de la culture qui habite le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il y a mille expressions. Je donne un autre exemple très loin, mais qui n'est pas sans lien. Quand dans un festival de cinéma américain, je pense au Tennessee, on décide de ne plus jouer Gone with the Wind, autant n'importe le vent, parce que ça heurte les valeurs d'aujourd'hui, parce que ça représente une vision idyllique du passé pré-guerre civile aux États-Unis dans le Sud, eh bien, c'est la même logique qui consiste à dire passons ce qui heurte. Et moi, je pense que devant une œuvre comme ça, mieux vaut l'expliquer, la travailler, y penser, que plutôt de simplement dire on la déchire, on l'arrache du duotang, puis on la voit plus.
Ah oui, mais d'ailleurs, cette image-là, d'ailleurs, d'arracher le texte du duotang est quelque chose. Ça aussi, c'est que là, on a le fin détail d'une procédure qui a lieu dans une classe à Montréal, mais de se faire dire qu'on a demandé aux élèves d'arracher le texte, c'est une image qui fait mal, parce que ce qu'il y a certainement de plus blessant dans tout ça, c'est que Félix Leclerc, comme tu l'as si bien dit, décrivait parfaitement le Québec de cette époque-là, où effectivement, si tu n'avais pas de terre, tu ne pouvais pas travailler, si le colonisateur anglais était encore très présent, il fallait le nommer, et si on veut faire connaître l'histoire du Québec de façon comestible et agréable, ben rien de mieux qu'une une chanson de Félix Leclerc.
Oui, et ça, j'y reviens, c'est-à-dire pour véritablement s'introduire à une culture puis à la nôtre dans des circonstances, ça se fait pas seulement de manière très théorique, genre vive le Québec, mm-hmm. Ça implique d'entrer dans les œuvres qui incarnent ça dans un moment particulier, qui ont une charge poétique aussi, qu'on le veuille ou non, la part poétique des choses aide à aimer notre culture, notre pays. Et là, on a Félix Leclerc, qui est un des grands du 20e siècle. On pourrait en trouver d'autres, assurément. Mais c'est pas une mauvaise porte d'entrée. Et là, il y a...
C'est une excellente porte d'entrée.
C'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine si le tour de l'île, si on décidait de la faire, est-ce qu'il faudrait dire, oh là là, on peut pas faire ça parce qu'il parle des filles en mini-jupe. Ouais, ça passe pas. Et là, j'imagine la liste de chansons de Félix Leclerc qui ne pourrait plus passer. Alors, il y a la sensibilité des uns. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand... une chanson sur les ondes publiques, une chanson de, comment ça s'appelle, je perds le nom du groupe au moment où je veux le dire, mais c'était une chanson qui évoquait, il y avait le mot faggot dedans, bon, qui est pas okay. Un mot sympathique, c'est le moins qu'on peut dire, mais qu'on avait dit, oh là là, on doit plus jouer cette chanson qui est un classique, excusez-moi, le nom du groupe ne revient pas,
mais moi non plus, je cherche.
Chance Salted of Swing, c'est le groupe Salted of Swing, je crois, mais qu'importe, et on n'écoute plus ça, parce que, oh, c'est un mot qui nous heurte, j'essaie de, donc il fallait la
c'est de la chanson Sultans of Swing de Dire Straits.
De Dire Straits, donc c'est Dire Straits, mais c'est une autre chanson là-dedans. Bon, okay. Alors voilà. Et quoi qu'il en soit, donc là, cette espèce de logique de ça, ça nous heurte, donc on censure. Ça, ça heurte la sensibilité, donc on rejette. Bon, et ça, ça s'applique un peu partout aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que ça s'applique aussi dans une salle de classe, et encore une fois, pourquoi? Parce que des parents qui, finalement, j'oserais presque dire, se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas.
Ouais.
À la rigueur, à la maison, ils pourraient dire, bon, faut que tu comprennes, petit Jérémy, ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui, ça ne veut pas dire que quand un homme travaille pas, ça se peut qu'il y ait problème. Hein, il n'est pas sur l'aide sociale parce qu'il est paresseux, il est sur l'aide sociale parce qu'il y a eu des difficultés dans sa vie. On explique ça à l'enfant. Ça fait expliquer à l'enfant que la morale de Félix Leclerc était peut-être trop aride. Ça se fait, mais ce qu'il ne se fait pas, c'est décider de proscrire.
Mais est-ce qu'on pourrait pas, justement, si on cherchait une porte de sortie à cet imbroglio-là, et en tenant mordicus à ce que Félix Leclerc continue d'être enseigné dans une classe, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, considérant que c'était pour des élèves de 3 et 4e année, de choisir une autre chanson parce que les thèmes de comment faire mourir un homme peuvent peut-être être moins appropriés pour un élève en troisième année. Il y a sûrement d'autres chansons qu'on pourrait leur proposer. Alors, est-ce qu'on devrait demander à nos auditeurs de soumettre leur chanson, leur proposition de la chanson la plus représentative du Québec pour des élèves de 3 et 4e année?
Allons-y. Le petit bonheur, oh là là, éloge, mais portrait de l'ingratitude. Hein? Puis à la fin, l'homme préfère se laisser mourir. Oh, mon Dieu, n'est-ce pas une apologie du suicide? Hein? On va en trouver les images dans les chansons de Félix Leclerc qui peuvent nous heurter d'une manière ou d'autre. La nuit du 15 novembre, oh non, éloge de l'indépendantisme. ça pourrait être orienté, ça pourrait être militant, mauvais. L'alouette en colère, j'ai un fils enragé, disant, qui, autrement dit, c'est presque il y a une dimension de la colère politique là-dedans. L'alouette en colère, on l'attend. Donc moi, je propose qu'on récite le bottin de téléphone. Hein, ça va être correct, ça va être neutre, ça va être straight, ça va être aseptisé, ça va être parfait.
Mathieu Bocoté, un homme haut en couleur.
En dernière instance, si on entre dans cette logique, on va tout bannir.
Ben écoute, en tout cas, on sait déjà quels sont les titres que toi, tu mettrais sur la liste. Mathieu Bocoté, un grand merci pour tes lumières.
Au grand plaisir, au revoir.
Salut.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Ben, je pense qu'on n'a jamais tant parlé d'un ministre de l'Éducation que ces temps-ci avec le ministre Roberge, qui a certainement, tu vois, qui est animé d'une vision et il est dynamique et il décide, somme toute, de clencher en disant « Je suis le ministre et voici ce que je propose ». On a vu hier les nouvelles écoles, on a vu à quel point la loi a été rentrée de force à l'Assemblée nationale. Et on a en ligne avec actuellement une porte-parole, et pas la moindre, d'un groupe de professeurs, des gens du milieu de l'enseignement, qui déplorent la façon qu'on a de refaire le programme d'ECR et de culture religieuse. Alors, j'ai en ligne Mme Nadia El-Mabrouk, professeure d'informatique à l'Université de Montréal et membre de l'Association pour le droit des femmes du Québec. Bonjour, Mme El-Mabrouk.
Oui, bonjour.
Alors, effectivement, vous trouvez qu'il y a une occasion qui est ratée actuellement dans la définition qu'on veut donner au cours d'éthique et culture religieuse?
Oh, je dirais pas que c'est raté, parce que là, c'est le début d'une consultation. Alors, je donne la chance au coureur.
Vous avez raison.
Mais voilà. Bon, j'ai analysé les thèmes qui ont été proposés par le ministère de l'Éducation pour remplacer le cours d'éthique et culture religieuse avec un comité de parents. On a écrit un mémoire qu'on vient d'envoyer au ministre. Écoutez, c'est ça, là. Ça se dessine comme quand on analyse, parce que c'est pas dit clairement, n'est-ce pas? Les fondements, on dit pas clairement par quoi on veut le remplacer. On donne pas les fondements. Vous savez, ECR, on donne les fondements d'ECR. On dit que les finalités, c'est la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Ben, mon problème avec ça, c'est qu'on peut pas faire ça sur la base de la religion. Mmh. On peut pas reconnaître les citoyens sur une base religieuse. Ça, ça donne les dérives qu'on connaît, le fiasco éducatif qu'on connaît. Bon. Alors donc, je voulais savoir sur quoi se baserait ce nouveau cours. C'est pas dit clairement, mais quand on parcourt les thèmes, donc on voit que c'est un cours de citoyenneté, d'éthique, avec une partie
un peu comme un cours de philo
personnel, c'est ça, voilà, oui, mais surtout un cours de citoyenneté où on forme des citoyens. Ouais. Et dans ce contexte-là, je suis très très étonnée que le mot laïcité n'apparaisse pas du tout. Alors, voilà. Pourtant, le mot religion apparaît. Donc, vous voyez, on a comme deux thèmes qui correspondent au thème actuel d'éthique et culture religieuse. Il y a le thème 6 qui est éthique, le thème 8 qui est culture des sociétés. Quand on le lit, quand on lit les mots, ça ressemble un peu au contenu culture religieuse. Mmh. Alors, il y a autre chose, c'est certain, il y a d'autres...
Culture religieuse au singulier thèmes. Ou au pluriel, ici?
C'est culture des sociétés. Okay. Mais non, c'est, donc, ça ressemble. On a le même vocabulaire. Mmh. La même vision multiculturaliste canadienne, vous savez, qui est basée sur la laïcité qui est dite ouverte aux accommodements religieux. Alors que nous, en tout cas, le gouvernement a choisi, on a entériné un modèle de société qui n'est pas la laïcité ouverte, qui est la laïcité de l'État. Alors je m'étonne, et puis la laïcité, c'est ça, c'est un... N'est-ce pas? C'est un modèle qui encadre les rapports entre l'État et les citoyens en matière religieuse. Mmh. Alors, dans un cadre d'un cours de citoyenneté, en fait, il faudrait qu'il soit vu à la lumière de la laïcité. Alors, moi, je m'étonne beaucoup que le mot ne soit même pas là.
Mais et contrairement à ce que je laissais sous-entendre en ouvrant cette section de l'émission, ce n'est pas tout décidé. On amène ça sur la table, mais c'est l'énoncé, le libellé de base qui vous fait sourciller, là.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, les forums, on voit que dans les forums de discussion, ben, en fait, c'est les personnes qui sont à l'origine des CR qui sont toujours là. Alors, on se demande est-ce que c'est une réforme, est-ce que c'est vraiment une refonte, ou est-ce que c'est simplement une petite modification? Parce que c'est pas patché, ça va pas marcher. Écoutez, on a relevé des points majeurs. C'est une catastrophe, ce cours-là. C'est un cours qui amène les jeunes à s'identifier. Donc, ça met de la pression sur les jeunes pour s'identifier à une religion. Ça stigmatise, ça stigmatise les gens en fonction de pratiques religieuses, ouais. Même quand la famille ne pratique pas. En tout cas, le Conseil du statut de la femme a déjà relevé que c'était un cours qui faisait ressortir le sexisme des religions, mais sans le mettre en contexte. Bon, il y a beaucoup de problématiques. Et d'ailleurs, dans mon mémoire, écoutez, on a des parents qui expliquent, donc il y a même des témoignages qui montrent qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Il faudrait revoir les fondements.
Il y a une foule de signataires derrière cette lettre ouverte que vous avez présentée, cette lettre d'opinion. Et j'ai remarqué que certains de ces professionnels de l'éducation semblaient évoquer que, ultimement, plusieurs auraient souhaité voir le cours d'éthique et culture religieuse disparaître au profit des matières de base. Mais vous avez la nuance est faite. On aurait peut-être préféré ça, mais dans l'optique où on garde ce cours, voici nos commentaires. Je pense que c'est très pertinent parce que, en tant que parent, dites-moi juste un rappel pour tous nos auditeurs. Le cours d'éthique et culture religieuse est donné à quel degré, à quel niveau de l'école?
Ben, il est donné à tous, c'est un cours obligatoire, à tous les niveaux, du primaire, de la première année du primaire à la cinquième année du secondaire, à raison d'une heure par semaine, quelque chose comme ça.
Donc pendant 10 ans du cycle éducatif de nos jeunes.
Oui, c'est ça. Bon. Okay. Alors nous, ce qu'on demande en effet, donc je pense que devant le constat du cours, on va pas revenir là-dessus, écoutez, c'est... le vivre ensemble ne peut pas reposer, donc c'est un cours qui laisse entendre, parce que c'est... Évidemment, on n'est pas contre l'enseignement d'un contenu religieux, mais dans un cadre scientifique, pour comprendre, n'est-ce pas, la société, l'évolution
historique,
comme
un tour du monde, un constat, bien sûr.
Bien sûr. Alors, il faut qu'il soit enseigné dans un cadre factuel, hein, mm-hmm. n'est-ce pas? Pas dans un cadre d'un cours d'éthique. Mais le problème avec le cours d'éthique et culture religieuse, c'est ça. C'est que la religion est enseignée dans le cadre du vivre ensemble. Mm-hmm. Alors, mais ce n'est pas... en tout cas, l'école laïque n'a pas à faire la promotion de croyances et la promotion d'un vivre en société basé sur les religions. Mm-hmm. Alors, c'est ça qu'on voudrait voir changer fondamentalement. Alors, ce qu'on dit, c'est sûr, c'est que, en tout cas, le volet culture religieuse ne marche pas. Alors, moi, ce qu'on voudrait, c'est en fait qu'il soit suspendu tout de suite, idéalement, parce que là, on va faire des consultations, etc. Mais en attendant, tous les enfants ont encore le cours éthique et culture religieuse. Ils sont toujours évalués là-dessus. Mm-hmm. Donc, sur une matière caduque qu'on voit bien qui est caduque. Alors, je pense, c'est qu'on devrait le suspendre tout de suite. Hein. Mm-hmm. Voilà.
Ben, Madame Elmabrouk, vous avez soumis un mémoire pour une commission parlementaire qui va être étudier le programme? Est-ce que le processus
non,
est échelonné?
Non, je ne sais pas. Mm-hmm. Il n'y a pas de... Je ne sais pas, on ne connaît pas la suite des choses. Okay. Alors, il y a des forums qui sont tenus sans observateurs externes. Alors, mm-hmm. moi, j'appelle ça des forums à huis clos. C'est mm-hmm. peut-être pas...
Et dans un contexte où les commissions scolaires ont été un peu démises de leurs fonctions et responsabilités.
Oui, c'est ça. Bon, mm-hmm. Écoutez, je rentrerai pas là-dedans. En tout cas, nous, donc on avait jusqu'au... En fait, la date a été étendue. C'était jusqu'au 21 qu'on pouvait envoyer des mémoires. Et puis là, j'ai vu que ça a été étendu jusqu'à demain. Donc, les gens peuvent envoyer des mémoires jusqu'à demain. Après, je ne sais pas ce qui sera fait de ces mémoires. J'espère bien qu'on sera entendu.
Ben oui, mais moi aussi.
Parce que si on s'en va vers un cours ECR 2.0, ça sera pareil. Si rien ne change, mais écoutez, ça ne va pas marcher. Les parents continueront à être mécontents.
C'est ça. Mais en même temps aussi, en tant que parent, moi, je peux vous dire que j'ai souvent entendu de belles réflexions intéressantes au niveau humain de la part des élèves et de mes propres enfants qui fréquentaient l'école. Et qui, très souvent, c'était le cours qui était le théâtre de constats, de découvertes, de choses intéressantes parce qu'on ne veut pas non plus que faire des petits ouvriers spécialisés qui vont travailler dans telle ou telle chose. On veut faire des grands humains avec une aptitude de bonheur aussi.
Oui, mais il faut que l'école mise sur l'autonomie de jugement, sur le sens critique. Et le problème avec ce cours-là, c'est qu'on met en veille le sens critique lorsqu'il s'agit de culture religieuse. Alors, on parle de dialogue, de respect. Mais on ne peut pas... Alors, en fait, c'est pire que tout, en fait. La matière où il y a le plus de mythologie et de choses non scientifiques, c'est là qu'on dit aux jeunes un peu de ne pas... Vous savez, on les met devant une certaine obligation mm-hmm. de tolérer tout sans avoir d'approche critique. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que l'objectif premier de l'école, c'est de former l'autonomie de jugement.
Tout à fait.
Et le sens critique.
Mais Madame Mabrouk...
On peut faire ça, mais dans un cadre où vraiment, on met de l'avant, on valorise le questionnement des enfants. Pour l'instant,
et le bon jugement de chacun.
Pour l'instant, c'est le contraire. Un enfant qui mettrait en doute une pratique, ça serait à lui, c'est à lui de faire une introspection sur lui-même.
Ben, j'espère, Madame Elmabrouk, qu'effectivement, donc, le ministre de l'Éducation prêtera oreille à toutes ces réflexions-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir contribué. Madame Nadia Elmabrouk, qui est professeure d'informatique à l'Université de Montréal et membre de l'Association pour les droits des femmes du Québec. On vous revient tout de suite après la pause.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
On est en entrevue avec Luc Laliberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Politique américaine, ça devient de plus en plus palpitant. Luc, est-ce que Bernie Sanders représente à ce point-là la menace socialiste?
J'aime bien l'expression parce que c'est comme ça qu'on le fait circuler, et pas que chez les adversaires de Sanders, autant chez les démocrates que chez les républicains, mais dans les médias aussi. Mm-hmm. Et c'est impressionnant de voir qu'il y a une couverture quasi unanime. Peu importe quelle plateforme hein, ou quel réseau on va consulter, Bernie est présenté comme étant la grande menace. Puis le terme socialiste, ben, il est un brin galvaudé. Socialiste, si on écoutait le débat d'hier, on a l'impression que M. Sanders a frayé avec ce qu'il y avait de pire à l'époque de la guerre froide.
Ben oui.
À alors qu'il présentait hier, c'était peut-être pas stratégique de sa part, mais il disait, écoutez, même dans des régimes qu'on a critiqués, contre lesquels on s'est battu dans certains cas, il arrive qu'il y ait de bonnes idées. Je les ai, il y en a certaines que je retiens.
Ben oui, puis Antoine, il faisait évidemment référence à Cuba. Ça fait sourciller beaucoup de monde, mais la réalité, moi, je me souviendrai toujours d'un voyage aux États-Unis il y a quelques années où j'ai rencontré un homme qui me disait être condamné à travailler au noir toute sa vie parce qu'il y avait eu un accident de voiture et que faire réparer sa jambe sur laquelle il marchait péniblement lui avait valu une dette d'à peu près 50 000 $.
Non, écoute, les soins de santé aux États-Unis, moi, c'est une des choses. Ça et les armes à feu, ce sont les deux sujets sur lesquels j'ai beau m'échiner depuis quelques années, j'arrive pas toujours à bien comprendre la stratégie américaine derrière ça. Donc, Bernie Sanders le répète souvent, dans le monde occidental, là, dans les pays industrialisés, les États-Unis sont le seul pays à ne pas offrir de soins de santé. Et ça, c'est un écho chez des démocrates, mais aussi chez certains républicains. On constate que les coûts de santé ont explosé, que les coûts des assurances privés ont explosé, le coût des médicaments. Donc, on a beau être républicain ou démocrate, les soins de santé, c'est une priorité. Et Bernie, bien sûr, le fait à sa façon. Et hier, une fois de plus, pendant le débat, on avait une confrontation très nette entre deux façons de parvenir à offrir des soins de santé. D'un côté, l'approche Bernie Sanders, qui ressemble un peu à la nôtre, puis j'ai presque envie de dire encore plus agressive, couverture encore plus large que ce qu'on propose, nous, ici, si on ne parle que du Québec. Alors que de l'autre côté, il y a celui, je pense, qu'on aime bien entendre sur ce sujet-là, qui est Pete Buttigieg, l'ancien maire de South Bend, qui est tout jeune, qui lui dit « Je veux couvrir les Américains, mais on va le faire à leur rythme et on ne va pas sortir le privé de force de ce système-là. S'il y a des gens qui sont prêts à payer et qui aiment bien cette procédure-là, ben nous, on va leur permettre de conserver ça. » Et je pense que ça, c'est le rythme auquel les Américains s'attendent. Alors que Bernie, dans ce domaine-là, quand il parle de révolution, on n'est pas loin du sens premier du terme révolution.
Dans le sens que lui, il a clairement stipulé que pour lui, les assurances privées devraient disparaître au profit d'un système national.
Oui, voilà. Donc, grosso modo, on a défrayé un peu comme nous, on a notre carte soleil ici, ou qui a changé finalement notre carte soleil, mais notre carte d'assurance maladie, puis plus d'apport du privé. D'abord, c'est énorme. Si on regarde les chances d'appliquer ça ou de réaliser ça, on imagine qu'il y a un nombre de lobbies très puissants qui sont à argumenter contre Bernie actuellement au Congrès. Ça explique qu'il y a une froideur aussi de certains législateurs à la Chambre des représentants ou au Sénat. Puis il y a bien entendu, les coûts que ça va entraîner. Et hier, c'est encore un des sujets sur lesquels Bernie a peiné à répondre. C'est-à-dire, comment faites-vous, M. Sanders, pour financer cette plateforme-là? Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que l'éducation, c'est important, que réduire la dette étudiante ou même l'abolir, comme le propose Sanders, si on veut développer le pays puis développer la puissance intellectuelle de ce pays-là, je pense qu'on a intérêt à avantager un peu les étudiants, à prendre soin de notre population, à s'occuper des soins de santé. Ce que les démocrates lui ont rappelé hier, puis ce sur quoi les républicains, dont M. Trump, vont se servir pour l'attaquer, c'est « Avez-vous un prix à mettre à tout ça, M. Sanders? » Et hier, on a entendu des sommes qui relevaient de l'apocalypse ou à peu près, là, mais on disait « Écoutez, on va doubler dans certains cas des déficits au plan national pour être en mesure de mettre ça. » Et quand on veut implanter des réformes, puis ça, vous êtes mieux placé que moi ayant fait de la politique pour le faire ou pour
Il fallait chiffrer, par exemple, qu'est-ce que ça représentait d'ajouter l'assurance dentaire pour tous les Canadiens, effectivement.
Donc voilà, alors M. Sanders doit fournir des chiffres, et bien souvent on est dans l'impossibilité de le faire, et les avantages de son plan, ça va au-delà d'un cycle électoral, c'est-à-dire qu'on l'a vu au Massachusetts, par exemple, quand le Mass a décidé de couvrir sa population, on a une couverture de frais de santé au Massachusetts.
Ah, je ne savais même pas.
Les gens s'y sont habitués avec le temps. D'ailleurs, c'est Mitt Romney, c'est un républicain qui avait mis ça en place. C'était une mesure qui ressemblait drôlement à ce qu'Obama proposait d'ailleurs en 2008. Donc, quand on regarde au Mass, dans les sondages, les gens ont appris à vivre avec ça puis à découvrir les avantages et en bénéficient. Mais ça se fait sur plusieurs cycles électoraux. Quand on regarde la campagne 2020 puis qu'on voit que Donald Trump est déjà prêt puis que son équipe est plus fortunée puis plus expérimentée qu'en 2016, on veut vendre quelque chose à court terme. Si vous vendez dans deux ou trois cycles électoraux, là, pour Bernie, ça devient très difficile de faire valoir les mérites de ses réformes ou de ce que moi j'appelle parfois sa révolution.
Mais comme il arrive vraiment du champ gauche, on peut le reconnaître, est-ce que c'est possible qu'il ait... Oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible que lui et son équipe de campagne se disent, là, pour le moment, il faut faire triper les démocrates. Il faut les enthousiasmer. Il faut leur donner le goût de venir travailler dans la prochaine campagne électorale. Et on verra plus tard, on ira chercher l'expertise des calculs. Est-ce que ça se peut que ce soit délibérément mis de côté pour le moment et qu'on se concentre uniquement sur le charisme et le fantasme, l'idée d'un candidat aussi différent, aussi à l'extrême de Donald Trump, qu'on repousse le calcul rationnel à plus tard?
Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Puis il y a deux grands aspects ou deux angles où Bernie a une représentation qui est favorable. Un peu comme Donald Trump, même si lui est dans le système depuis très longtemps, c'est très clair que ça n'a jamais été un démocrate. C'est un corps étranger au sein de ce parti-là. Puis c'est quelqu'un qui s'est régulièrement opposé à l'establishment de son parti, mais à l'establishment à Washington. Mmh. Il a toujours été un brin marginal pour ça. Donc, un peu comme on a, dans certains cas, confiance en Trump en disant « lui ne se fera pas acheter » ou en tout cas, il a les mains libres, contrairement à bien d'autres, on attribue ça aussi ou on accole cette étiquette à Bernie Sanders. De l'autre côté, donc, je disais, il y a cette étiquette-là hein, de candidat hors norme. Et si on observait depuis le début le comportement des foules qui suivent M. Sanders, je défie n'importe qui de me trouver une foule aussi partisane, mais aussi enthousiaste la foule qui suit Bernie Sanders. C'est le seul à déclencher des passions. Biden, par exemple, qui est un peu à la traîne puis qui joue énormément samedi et mardi prochain, on a des ambiances de salon mortuaire, bien souvent, quand il s'exprime. Puis lui-même ne parvient pas à avoir l'air enthousiaste. Pete Buttigieg, on le sait, il est tout en retenue, il est calme, peut-être trop. Hein? Il veut jouer un peu la carte Barack Obama en disant « moi, je suis plus nuancé et en contrôle ».
Et il se prépare potentiellement aussi pour le prochain tour aussi. Il y a tout le temps
Lui. Moi, je pense qu'il y a de bonnes chances que M. Buttigieg là, s'esquive après samedi, après mardi prochain.
Ah, oui.
Les sondages ne le mettent pas en avance dans aucun des 15 États à voter, si on inclut les deux journées, samedi et mardi prochain. Mm-hmm. Donc, on se dit, M. Buttigieg, je peux s'accrocher à quoi ensuite s'il n'en profite pas pour aller chercher un peu de délégués et surtout augmenter sa popularité ou son sex appeal auprès de la communauté noire ou des minorités. Là, M. Buttigieg, il est
C'est son flanc faible, hein? Je pense, à la communauté noire.
Ah, vraiment. Et par contre, ce qui fait contrepoids à ça, puis hier soir, il a été très bon là-dedans, c'est qu'il offre vraiment une position centriste intéressante, puis une position, il s'exprime comme les Américains aimeraient que le meneur de la course chez les démocrates s'exprime. Il a les bons mots. Maintenant, ce sont les appuis qui lui manquent. Mais considérant d'où il partait, South Bend, Indiana, est-ce qu'on pouvait espérer dans un cycle électoral aussi court que ça, sans historique de vote là, pour appuyer la communauté noire? C'était très difficile pour lui de s'imposer à ce moment-là.
C'est ça. C'est comme un candidat qui arrive out of the blue complètement. On ne le voyait pas arriver. Et soudainement, il est un des candidats quand même les plus prometteurs et les plus porteurs pour le futur du Parti démocrate aux États-Unis. Mais ça me mène à te poser une question. Moi, personnellement, j'ai découvert que récemment que Bernie Sanders avait déjà été le maire de Burlington au Vermont.
Oui.
Et est-ce que l'enthousiasme qu'on voit autour de lui est lié, entre autres, à ce règne-là qu'il a eu sur la ville de Burlington? Est-ce que c'est une ville universitaire, d'ailleurs?
Oui, au Vermont, ses appuis sont solides depuis un grand nombre d'années. Puis, à certaines élections, il a été beaucoup plus contesté qu'à d'autres. Ça fait longtemps, là, à différents niveaux, donc, qu'il représente le Vermont ou encore la ville de Burlington. Mais c'est en ce sens-là où on peut dire il est quelque part honnête et sincère depuis le départ. C'est que le Bernie qu'on voit en 2020, si on recule, puis lui-même le fait parfois dans les débats, je suis pas sûr que ça le sert toujours très bien, mais parce que ça fait ressortir son âge avancé.
Et son expérience.
Mais écoutez, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, moi, je faisais déjà ça ou je disais déjà ça. Mm-hmm. Donc, c'est une de ses forces, c'est-à-dire qu'il est cohérent. Joe Biden, par exemple, a un parcours beaucoup plus sinueux, puis il a à défendre certains votes ou certaines positions qui, hors contexte, sont aujourd'hui controversées. Bernie, on a comme un fil conducteur et les gens du Vermont lui font confiance.
C'est ça.
Ce qui est étonnant, c'est qu'avec ce projet-là, puis en étant issu d'un État relativement petit, là, au plan démographique, on ne se le cachera pas.
Et assez progressiste.
Vermont, c'est pas... Pardon?
Assez progressiste quand même.
Oui, Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'après toutes ces années, à son âge, puis considérant le coin de pays d'où il provient, qu'il soit vu comme l'élément de changement, puis l'élément de confiance pour porter un changement, moi, c'est quelque chose qui m'étonne encore.
Mais dans les défis auxquels font face les hommes et les femmes politiques, surtout dans un grand pays aussi important sur la scène mondiale que les États-Unis, on les voit soudainement là, s'inquiéter un peu de l'arrivée du COVID-19. Et ça commence à monter. Est-ce que quand on arrive devant un enjeu de catastrophe, j'aime pas ça dire ça, je veux pas ameuter les gens, mais quand on a quand même un enjeu important comme celui-là, est-ce que ça serait possible qu'il y ait une valeur refuge, que les électeurs, même les démocrates qui choisiront leur représentant, vont opter pour quelque chose de plus rassurant que M. Sanders?
C'est pas impossible, hein. Puis quand on dit on s'inquiète, là, puis on veut pas ameuter, ta formule était très bonne. En même temps, ce qu'on dit du côté des États-Unis, chez les dirigeants des services de santé, c'est de dire, ben écoutez, il y a pas de raison de paniquer, mais il faut se préparer au pire tout de suite. Comme ça, on sera prêt dans l'éventualité où on va affronter nos premiers cas. Et là où on dit, bon, on peut avoir une valeur refuge chez des candidats un petit peu plus conventionnels, traditionnels, rassurants. Président Trump, je pense, a finalement compris le message. Juste au moment où on débute notre conversation, là, je voyais sur mon téléphone passer une alerte. Mmh. Le président va s'adresser aux Américains ce soir. Donc, c'est une des choses qui le hante. C'est qu'il n'a pas été bon à aucun moment depuis son entrée en fonction, Trump, pour rassurer les gens. Dans les cas de meurtre, par exemple, ou dans les cas d'incidents avec des armes à feu, on se rappellera, par exemple, quand on voyait les ouragans approcher de la côte de la Floride, on se rappelle encore de la scène totalement loufoque où, avec un crayon Sharpie, il avait lui-même déplacé la direction de l'ouragan pour éviter le pire, pour que ça corresponde à ce qu'il avait dit.
Pensée magique.
Ben voilà, il a été terriblement maladroit de ce côté-là. On peut lui trouver d'autres qualités, d'autres forces, mais pas celle-là. Donc là, je pense que son équipe et lui ont compris, on joue gros et il faudrait montrer un peu d'empathie pour nos concitoyens. Ben puis en même temps, M. Trump, c'est ce qui l'effraie le plus, je pense, actuellement, qu'il y ait un dérapage dans la protection puis dans les mesures qu'on offre à nos concitoyens et que son leadership en souffre et qu'on lui reproche pendant la campagne électorale. Donc on va jouer sur les deux tableaux. On veut jouer sur l'empathie, le côté « on va vous rassurer, je suis un meneur, vous êtes entre bonnes mains. » Puis de l'autre côté, je ne veux surtout pas avoir à payer le prix d'un dérapage éventuel.
Exact. Ben, Luc, je m'en voudrais de ne pas terminer notre échange sur une... Tu voulais nous faire part de la disparition d'une grande pionnière dans la communauté noire et dans la communauté de l'aérospatiale.
Catherine Johnson, 101 ans, qui avait reçu en 2015 la médaille de la liberté, et bien sûr, symboliquement, c'est une noire, Catherine Johnson. La médaille lui avait été décernée par Barack Obama, le premier président noir de l'histoire. C'est un peu la revanche de l'histoire pour la communauté afro-américaine. Je pense qu'avec raison, dans les années 50-60, on a rendu hommage aux premiers astronautes, à John Glenn, à Neil Armstrong, donc à tous ceux qu'on a présentés comme des héros, mais on avait effectivement placé dans l'ombre des armées de mathématiciennes noires qui effectuaient des calculs particulièrement sophistiqués. Puis Catherine Johnson, c'est une de celles qui s'est démarquée. Et l'anecdote sur laquelle je voulais te laisser, c'est ceux qui ont vu le film Les Figures de l'ombre, par exemple, se souviennent de cette scène-là. John Glenn est sur le bord de monter à bord littéralement d'un missile, et avant de s'envoler, il dit « Attendez, là, c'est les ordinateurs, c'est IBM qui fait son entrée à l'époque. » On dit « Moi, les calculs, je veux qu'ils soient vérifiés à la main par Catherine Johnson. » Et si Catherine Johnson me dit que ça marche, c'est « it's a go, j'y vais ». Donc, c'est dire l'importance quand même qu'elle a eue quand on connaît l'histoire de John Glenn de ses successeurs.
On a tellement parlé de ses premiers hommes sur la Lune.
Ben voilà.
Quand il y avait des grandes femmes derrière comme ça, c'est très important. C'est d'ailleurs un film à redécouvrir, aller le regarder tout de suite, parce que ça permet de mettre tout le contexte dans l'incroyable exploit qu'a fait Mme Johnson, alors que effectivement, on n'a que vénéré les hommes dans cette histoire autour des premiers pas sur la Lune. Eh bien, merci beaucoup, Luc, pour ton analyse. On se reparle bientôt. Vous êtes à Politiquement Incorrect.
Politiquement Incorrect.
Cube Radio. Autrement dit.
Incroyable histoire. En fait, c'est pas une histoire incroyable, mais disons que ça fait jaser parce qu'on a bien vu ici là les soupçons qui pèsent sur la gestion de la clientèle, disons, du groupe Yvon Michel. Pour parler de cette histoire, je suis en discussion avec Éric Thibault, journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Éric.
Oui, bonjour, Pierre.
Bonjour. Alors, la gestion de la billetterie chez Yvon Michel fait jaser ces jours-ci.
Ouais, mais ce qui est particulier, c'est que Yvon Michel, lui, il renvoie la balle à la régie des alcools, des courses et des jeux, parce que la régie a reçu le plan de la salle au préalable, avant le gala.
Oh.
Ils ont vu qu'il y avait des... Ils ont vu, en principe, ils étaient supposés de voir que la rangée derrière celle où Yvon Michel était assis, qui se trouve à l'intérieur du périmètre de sécurité, là, qui est réservé aux invités du promoteur, aux officiels de la régie, aux représentants des médias, aux professionnels des services d'urgence.
Mm-hmm.
Bon, ça, en principe, ce périmètre-là, c'est supposé d'être des billets de faveur, des laissez-passer. Mais là, cette fois-ci, il y avait une rangée où c'était des billets payants, à $250 le siège.
Okay.
Puis, ce que le groupe Yvon Michel prétend, c'est que, puis avec raison, ça a été admis même par la régie, c'est qu'ils ont envoyé leur plan de salle à la régie avant le gala, puis la régie l'a autorisé.
Mm-hmm. Un peu comme rubber stampé, la machine à saucisses, ils n'ont pas regardé.
Bon, alors là, ils ont vendu les billets, puis évidemment, ben les motards, ce sont des amateurs de sport de combat, des amateurs de boxe. Mm-hmm. Les policiers du groupe Eclipse, qui est une escouade là, spéciale là, qui fait le tour des bars du centre-ville là, tous les soirs, ils ont témoigné la semaine dernière pour dire que ils sont toujours à tous les galas de boxe à Montréal parce que il y a toujours des gens du crime organisé qui sont présents lors de ces galas là, sauf que à celui du 20 septembre 2019 au Centre Pierre-Charbonneau, il y avait 6 membres des Hells Angels qui étaient assis à l'intérieur du périmètre.
De cette zone-là. Mais d'ailleurs, moi j'ai découvert ça. J'ai découvert ça. Je ne savais pas qu'il existait une espèce de formule précise, l'équivalent peut-être comme d'une loge d'entreprise aux Canadiens, mais l'endroit qui est très près du ring est un endroit qui est réglementé. C'est quelque chose, honnêtement, que je ne savais pas.
C'est réglementé, puis les policiers ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient des gens du crime organisé assis à l'intérieur du périmètre de sécurité. Alors là, sauf que le problème, c'est que la régie, qui traduit Yvon Michel devant une audience, dans une audience disciplinaire, a elle-même autorisé la vente de billets, puis la vente de billets... Évidemment, bon, écoutez, ce sont des motards qui se sont ramassés aux premières loges dans cette rangée-là. Alors là, Yvon Michel a dû rendre des comptes depuis la semaine dernière. Il s'est défendu en disant qu'il ne fréquente pas, il n'a jamais fréquenté de gens du crime organisé, qu'il ne connaissait pas les motards qui étaient présents, qui étaient assis juste derrière lui. Et qu'il n'y avait rien à se reprocher là, sur le plan des affaires puis de l'organisation du gala. La régie a une opinion différente et puis hier, ils ont réclamé, ils ont plaidé pour l'imposition d'une suspension de 90 jours du permis d'organisateur de gala de boxe d'Yvon Michel. Ça serait, je veux pas m'avancer trop là. Je veux pas dire que c'est un précédent, mais c'est très très rare comme situation au Québec là.
Ben d'autant plus que pour moi, je ne connais absolument rien à ce sport, mais pour les amateurs de boxe, le groupe Yvon Michel est certainement le promoteur le plus connu. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres promoteurs de boxe au Québec?
Ben, écoutez, je suis assez néophyte là, en matière de boxe, mais je sais qu'il y a le groupe de Camille Estéphane qui s'appelle Eye of the Tiger qui organise également des combats de boxe, des galas de boxe au Québec. Je crois qu'ils sont les deux seuls.
Okay.
Le groupe Yvon Michel et Eye of the Tiger, je crois que ce sont les deux seuls qui ont des permis de la régie des alcools et des courses et des jeux parce que tout ça est réglementé. La régie, là, c'est l'ancienne régie, ça portait un autre nom avant. Là. Vous savez, ça remonte à plusieurs années. Il y a déjà eu des commissions d'enquête publiques sur l'infiltration
du crime organisé dans ce
sport de combat.
Oui, et c'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, quand même un des accomplissements du groupe Yvon Michel d'avoir réussi, en tout cas en apparence, à nettoyer un peu l'image de la boxe au fil des dernières décennies.
Ben, écoutez,
pense pas que ce soit le groupe Yvon Michel qui ait nettoyé l'image de la boxe. Sauf que le groupe Yvon Michel, depuis 2004, a organisé plus de 200 galas de boxe professionnelle au Québec et ailleurs dans le monde. Et c'est la première fois qu'il y a un problème, et ça, c'est la procureure même de la régie qui l'a dit hier. C'est la première fois. Habituellement, les galas du groupe Yvon Michel ne posent aucun problème. Et c'est la première fois qu'il y a une difficulté, qu'il y a des inquiétudes, des préoccupations. Et c'est de là l'audience disciplinaire publique là, qui s'est tenue.
Mais Eric, est-ce que la sortie souhaitable pour ça, est-ce que ce serait pas, par exemple, que si la régie, elle va devoir répondre à l'argument de Yvon Michel qui dit qu'ils avaient reçu la configuration de cette zone VIP, ou en tout cas de cette zone réglementée, est-ce qu'ils pourront, en reconnaissant qu'ils n'ont pas réagi à ça, dire que bon, mais la cause est non avenue, est-ce que c'est un débouché possible?
Ben, écoutez, hier, les procureurs des deux parties ont soumis leurs argumentations au juge administratif de la régie qui vont prendre une décision d'ici les trois prochains mois. Là. Évidemment, je veux pas porter de jugement de valeur sur la valeur des arguments apportés de part et d'autre, mais je dois vous dire que les arguments qui ont été plaidés par le procureur du groupe Yvon Michel étaient, ma foi, ça avait beaucoup de sens. C'était une excellente défense. Lui, il a plaidé qu'il n'y avait carrément aucune preuve factuelle pour appuyer la commission de quelque infraction que ce soit. Bon, on peut être en désaccord, mais...
Il y a quand même un précédent là, d'avoir choisi de vendre des sièges dans cette section-là. Ils ont averti la régie, mais c'est un précédent. C'est comme tu me disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui n'est pas usuel.
Ça, c'est pas usuel. D'une part, c'était tellement pas usuel que probablement que les gens de la régie, ils ont regardé le plan de salle, puis ils ont pas regardé comme il faut, parce qu'ils ont pris pour acquis qu'il n'y avait pas de billets vente dans le périmètre.
C'est un peu comme...
D'autre part, c'est ce que le procureur d'Yvon Michel a plaidé aussi, c'est que c'est pas Yvon Michel qui a décidé de vendre des billets d'en ranger en arrière de lui.
Oh.
C'est les gens de la direction du Centre Pierre Charbonneau.
Ah, oh, mais c'est puis, très important.
Alors, bon, mais sauf que ça n'empêche pas que le groupe Yvon Michel, en tant qu'organisateur, c'est lui qui avait la responsabilité de
la gestion de la billetterie.
C'est exactement de gérer le plan de salle, de gérer la billetterie, tout ça.
Ben en tout cas, espérons un peu comme quand on reçoit une contravention parce qu'on allait à 119 km/h, puis qu'on se dit bon ben écoutez, je vais juste vous avertir parce que vous êtes dans la zone tolérable, puis on se rappelle qu'il faut lever le pied un peu sur l'autoroute, spécialement quand il va y avoir de la neige. Mais donc ici, peut-être que la bonne conclusion de ça, c'est qu'on aura quand même ramené un peu cette notion à la conscience populaire qu'effectivement le crime organisé est quand même friand des galas de boxe, puis qu'on peut quand même pas banaliser ça.
Ben, je seconde ce que vous venez de dire. Et je crois que à la rigueur, même si la régie décidait en bout de ligne de ne pas imposer aucune sanction à Yvon Michel, cette audience-là, cette convocation-là à une audience disciplinaire aura eu une utilité.
Le mérite de ramener cet enjeu-là, oui.
Une forme d'avertissement et de rappel à l'ordre à tout le monde.
Tout à fait. Ben, Éric Thibault, merci beaucoup, journaliste au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci pour tes lumières sur ce sujet. On s'en va rejoindre Jonathan Trudeau. Bonjour, Jonathan.
Salut, Pierre.
Comment ça va?
Ça va très bien.
As-tu une émission qui dégouline de contenu tellement qu'il y a de l'actualité?
Ah, écoute, ça dégouline de partout. J'essaie de patcher ça, là, j'ai un pied, un doigt, une main. Là,
C'est pas les sujets qui manquent, alors j'imagine qu'on va encore une fois essayer de comprendre comment est-ce qu'on a pu perdre le fil de la résolution de ce conflit-là à Ottawa au niveau des blocus ferroviaires.
Oui, ben en fait, on va en parler avec Yann Lafrenière, député de Vachon, adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique. Évidemment, connaît bien toutes ces questions-là d'intervention policière, parce que là, souvent, le focus va changer de place. On parlait évidemment, puis on doit continuer de parler de l'inaction puis de l'incompétence du gouvernement Trudeau à Ottawa, mais n'empêche que, dans le cas des blocus qui ont cours au Québec, je pense à celui de Kanawake, depuis le début, le gouvernement fédéral disait ben, c'est aux provinces de faire respecter les injonctions. Mais là, on se tournait vers le fédéral et on disait si bol, il n'y en a pas d'injonction au Québec. Hein, exact. Là, chez nous.
Exact.
Mais là, il y en a eu une injonction. Le Canadien Pacifique qui a obtenu une injonction. Donc, les yeux sont tournés vers François Legault qui, lui, tapait du pied depuis une dizaine de jours. Puis, Pierre, j'étais bien humblement, là, j'étais un peu le seul à aborder un angle hier. Je l'ai fait à la joute parce que j'ai eu des discussions avec des sources très au fait du dossier en haut lieu. Et moi, là, tout m'indique que François Legault ne va pas demander à la Sûreté du Québec d'intervenir dans le cas de Kanawake. Et là, les gens disent, mais comment ça, c'est lui qui disait qu'il fallait qu'on intervienne le plus rapidement possible. Ben, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que François Legault, lorsqu'il disait ça, il avait particulièrement en tête le blocage de Belleville en Ontario, parce que c'était lui qui heurtait le plus le Québec à de multiples niveaux. C'est ça, c'était tellement névralgique. Et là, mes sources me disent, ben, à partir du moment où le blocus de Belleville est levé, que oui, il semble y avoir des soubresauts, mais quand même, le CN espère reprendre les activités, ben là, on doit se tourner vers d'autres blocages comme celui de Kanawake, qui, nuit à 5000 personnes qui utilisent le train de banlieue par jour, mais c'est pas aussi névralgique. T'sais, moi, ma source me disait, on rentrera pas dans le tas pour le barrage à Kanawake ou une éventuelle fermeture de la route 344 à Kanawake. Mais il disait, si par exemple, ils ferment le pont Mercier, ben là, on n'aura pas le choix.
Ben,
il y a cette évaluation du risque-là qui est faite du rapport coût-bénéfice, si on veut.
Moi, je comprends très bien cette évaluation du risque dans la mesure où, tant que les marchandises, l'économie, et par exemple, l'arrivée de gaz propane, parce que ça demeure la grande inquiétude, moi, c'est la chose que j'ai découvert en 2020, c'est l'importance de l'importation du gaz propane dans le secteur agricole. C'est quelque chose, pour moi, c'est comme, ben voyons donc, comment ça qu'ils ne sont pas convertis à l'électricité? On m'a dit grossièrement que le propane, ça assèche particulièrement, c'est très efficace quand on veut changer la température très rapidement. Alors, c'est probablement ça qui explique ça. Mais toujours est-il qu'effectivement, de débarquer sans avoir une coordination fédérale en lien avec... Parce que tout ça demeure lié aux Wet'suwet'en. Si les Wet'suwet'en décident de dire aux gens de Kanawake, c'est beau, on a eu une satisfaction, on va pouvoir élaborer nos conversations, on laisse aller les barricades, ils le feraient, j'imagine.
J'imagine. Mais écoute, on voit pas la fin. Mais je termine avec une simplification extrême. Lorsque tu parles du séchage avec le propane, là, je sais pas si t'es un adepte de camping, là. Mais quand tu fais du camping, puis que mettons, c'est bien humide dans ta tente, là, t'allumes une petite lampe au propane, là.
T'allumes une chandelle, ça fait un job.
Tu sens quasiment l'humidité, là.
C'est vrai, hein?
Aspirer, là.
Le propane.
Alors, avec un petit four électrique, je suis pas sûr que ça avait fait un job.
Effectivement.
Ça doit être vrai que le propane est particulièrement.
Effectivement. Puis c'est Jason Kenney qui doit rire dans sa barbe, mais il n'y a pas de barbe. Bon, enfin. Ouais, eh bien, Jonathan, bonne émission.
Bonne journée à toi.
Merci beaucoup. Bonne journée.